Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
Et à 6h30, le journal, c'est avec Rémi Inc. Bonjour Rémi.
Bonjour, les forces de l'ordre ont-elles ralenti l'arrivée de secours à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres ce week-end? Les manifestants l'affirment ce matin. 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain. La première ministre parle d'apaisement, elle veut renouer le contact avec les syndicats. Et puis une série de mesures pour permettre de baisser le prix du permis de conduire et son délai d'obtention.
Un manifestant toujours entre la vie et la mort après le rassemblement du week-end dernier à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.
Oui, après de violents affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés à la construction d'une méga bassine, ce réservoir destiné à l'irrigation agricole. Les organisateurs du rassemblement dénoncent 200 blessés parmi les manifestants, dont 40 grièvement. Les chiffres des autorités sont bien différents. 7 manifestants blessés et 47 gendarmes blessés. La Ligue des droits de l'homme qui avait déployé plusieurs observateurs sur place, met en cause la responsabilité des forces de l'ordre dans ces violences. Rappelons que plus de 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement ont été tirées. Les organisateurs de la mobilisation dénoncent également le temps qu'ont mis les secours à arriver. Ils accusent la gendarmerie d'être responsable. Pour RMC, Marion Gauthier s'est rendue à Mel, la commune où se sont rassemblés les manifestants hier.
L'émotion fait trembler sa voix lorsque Mathilde évoque l'attente des secours sur une route où des blessés étaient alignés.
C'était hyper difficile à vivre de voir qu'il y avait une personne qui était en danger et qu'on refusait l'accès aux secours.
La manifestante raconte les multiples appels sans effet.
Le SAMU répondait que les gendarmes leur disaient de ne pas venir. Alors qu'à ce moment-là, la situation elle était calme. Il y avait en même temps un camion de pompiers qui arrivait pour évacuer d'autres blessés. Il était bloqué à 100 mètres de là par deux voitures de gendarmes.
C'était un cauchemar qui a duré beaucoup trop longtemps.
Nicolas Giraud est porte-parole de la Confédération paysanne.
Moi, je me sentais tellement inutile à être avec mon téléphone, avec le colonel qui me faisait croire que les pompiers n'avaient pas été appelés, que on était où il fallait pas être.
Car la préfecture des Deux-Sèvres se défend, difficulté à localiser les blessés, à les approcher alors que les affrontements se poursuivaient, dit-elle. Ils ont préféré le maintien de l'ordre pour Lionel Brun-Valicon. Il est secrétaire général adjoint de la Ligue des droits de l'homme.
Un dispositif de maintien de l'ordre qui se donne comme unique priorité la sécurisation met en péril la protection des personnes, y compris par les services soignants.
Les organisateurs de la manifestation réfléchissent à porter plainte.
Ces questions autour du maintien de l'ordre seront à coup sûr une nouvelle fois posées demain. 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs situations problématiques ont déjà été rapportées. Des propos menaçants et humiliants des policiers envers les manifestants par exemple. La chef de l'IGPN, la police des polices Agnès Thibault-Lecuivre, l'indiquait hier. 17 enquêtes sont ouvertes depuis le début de la mobilisation contre ce texte.
Ces abus sont même destructeurs pour l'institution police nationale. Lorsque nous sommes saisis, aussi bien en administratif qu'en judiciaire, nous ne laissons rien passer. Nous menons des enquêtes qui sont ni à charge ni à décharge. Nous menons des enquêtes. Il faut qu'on arrive, quand c'est le cas, à déterminer avec la célérité qui s'impose, quels sont les manquements, les fautes, les infractions qui peuvent être reprochées à tel ou tel policier. À l'inspection générale de la police nationale, nous n'enterrons pas les affaires.
Et justement, dans ce contexte, je vous attends d'autant plus. Vos témoignages, ils sont précieux. Appelez-nous au 3216. Peut-être que vous êtes policier ou gendarme. Dites-nous dans quel contexte est-ce que vous travaillez, si vous êtes à bout, si vous êtes manifestant, est-ce que vous avez vu des moments de violence, de tension? Est-ce que d'ailleurs vous redoutez de retourner manifester? Est-ce que vous avez peur? Dites-nous au 3216.
Le président de la République, Emmanuel Macron, qui reçoit la première ministre, Elisabeth Borne, ce midi à l'Élysée. Ils seront ensuite rejoints par les cadres de la majorité et par les ministres concernés par cette réforme des retraites. Elisabeth Borne qui dit vouloir apaiser. Elle compte recevoir les organisations politiques et veut renouer le contact avec les syndicats avec une promesse, ne plus avoir de recours au 49-3 cette année en dehors des textes budgétaires. Une proposition de loi pour faciliter le passage du permis de conduire est étudiée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Proposition de loi du groupe Renaissance. Le coût de l'acquisition du permis de conduire atteint désormais 2 000 euros, voire davantage. Une nouvelle plateforme numérique doit notamment voir le jour pour recenser l'intégralité des aides. Les aspirants conducteurs accueillent ces mesures d'un bon œil. Reportage à Nîmes d'Estelle Henry et de Martin Juré.
Une plateforme internet pour recenser l'intégralité des aides financières existantes pour le permis de conduire, c'est l'une des mesures prévues par ce texte. Un outil qui pourrait aider Pierre, 17 ans, qui espère passer l'examen avant l'été.
Il n'y a pas beaucoup de choses mises en place pour le permis, en tout cas je n'entends pas beaucoup parler. Donc moi, si ça peut nous aider, je suis pour, quoi.
Parmi les mesures phares de la proposition de loi, le recrutement de contractuels pour pallier le manque d'inspecteurs du permis de conduire, car les délais pour passer l'examen ont explosé ces derniers mois. Inès, 20 ans, en a fait les frais.
J'ai eu un délai d'attente de 6 mois. Les temps d'attente, c'est vraiment ça le problème.
Si le recours aux contractuels pourrait permettre de raccourcir ces délais, la mesure inquiète les professionnels comme Laurent Bangoura, co-gérant d'une auto-école à Nîmes.
C'est pas très clair. On ne sait pas justement si ces personnes-là seront bien formées ou s'ils auront vraiment la notion pédagogique.
La proposition de loi prévoit aussi d'ouvrir le financement par le compte personnel de formation à tous les types de permis.
RMC 6h36, le procès d'un homme accusé d'avoir prostitué une adolescente de 14 ans s'ouvre aujourd'hui à Pontoise dans le Val d'Oise. Pendant 2 ans, la mère d'Assia s'est battue sans relâche pour la retrouver, pour la sortir ensuite de cet enfer. Sa fille était donc sous l'emprise d'un jeune homme de 17 ans au moment des faits. Caroline Philippe.
Préadolescente, Assia est placée en foyer par les services sociaux. Ils estiment que sa mère n'apporte pas un équilibre familial suffisant. En colonie de vacances, elle rencontre un jeune homme à peine plus âgé qu'elle. Isolée et amoureuse, à 14 ans, elle accepte de se prostituer pour lui et fugue à Paris. Comme ses plaintes déposées au commissariat n'aboutissent pas, sa mère commence alors une véritable enquête. Elle traque elle-même sa fille sur les sites d'escorte, va jusqu'à se faire passer pour un client pour la retrouver. Sa fille la rejoindra finalement définitivement après presque 2 ans d'enfer pour donner naissance à un petit garçon. L'ex-petite amie d'Assia est poursuivi pour proxénétisme sur mineurs, viol, violence et séquestration. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
Du football à votre programme ce soir, l'équipe de France se déplace en Irlande pour la suite des qualifications à l'Euro 2024. Il faudra confirmer après la belle victoire face aux Pays-Bas il y a 3 jours, victoire 4-0. Irlande-France, coup d'envoi 20h45 ce soir, match à suivre en direct sur RMC avec au but Charles Magnan. Non, Mike Maignan.
Non, à ne pas confondre. Ouais.
Et puis les courses, le Quintet Plus, c'est sur l'hippodrome de Fontainebleau.
À 13h50, voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Favori le numéro 3, Otrasno. Outsider le numéro 8, Tarida. Le 3, le 8. Course du Quintet à suivre en direct sur RMC. Découverte 13h50.
C'était le journal de Rémi Inc. Il est 6h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
La France au défi du maintien de l'ordre. Les affrontements de ce week-end font craindre le pire à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que les violences sont inéluctables désormais? Est-ce que le maintien de l'ordre est à la hauteur? Vous êtes policier, vous êtes gendarme, votre point de vue m'intéresse. Vous êtes manifestant, votre point de vue m'intéresse. Tous sont les bienvenus pour venir témoigner. Je vous attends au 32-16. On est avec Charles, Manu et Nicolas. À tout de suite.
RMC Police Justice.
Mais d'abord, l'histoire du jour repérée est racontée par le service Police Justice d'RMC. Ce matin, Romain Poiseau, vous nous parlez d'un notaire et de sa petite équipe à la recherche d'héritage à détourner.
Les octogénaires, riches et isolés, étaient d'abord repérés par un directeur de maison de retraite dans le Var. Ensuite, un entrepreneur de pompes funèbres se chargeait de vérifier si la succession était vacante. Et enfin, il fallait trouver un successeur. Pour profiter au mieux de cet argent sans propriétaire, un avocat se chargeait de falsifier une lettre de testament et un notaire validait le dossier. Toute cette équipe était au service d'un seul homme, de Jean-Louis Magnien. Ancien notaire, radié de l'ordre, car reconnu coupable d'abus de faiblesse en 2004, à chaque fois, les successeurs désignés étaient membres de sa famille, sa mère, son fils, sa maîtresse. En 15 ans, il s'est constitué un imposant patrimoine immobilier, une 20aine de biens, une villa dans le Var, des voitures de luxe, des chevaux. Il faut dire que toute la petite famille a pu hériter comme par magie d'une 10aine de successions pour un montant de 5,6 millions d'euros. C'est un huissier de justice qui a repéré l'arnaque en comparant l'écriture de 2 testaments. Toute l'équipe à l'origine de ce larcin, ceux qui ont aussi profité de ces successions, 7 compères au total, passent devant le tribunal de Cusset dans l'Allier cette semaine pour escroquerie en bande organisée, l'État qui a déjà remis la main sur plusieurs millions d'euros qui lui avaient été spoliés.
Le récit de Romain Poiseau avec le service police-justice d'RMC.
RMC, 6h39,
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h41 et vous êtes bien sur RMC.
C'est votre avis.
La violence est de retour dans les manifestations, dans les rues de Nantes ou de Paris, en marge des rassemblements contre la réforme des retraites. Et puis ce week-end, à Sainte-Soline, près de Niort, entre gendarmes et opposants à ce qu'on appelle les méga-bassines ou les retenues d'eau. À Sainte-Soline, le bilan, il est très lourd. 29 gendarmes blessés, entre 40 et 200 opposants blessés, dont un, au moment où l'on se parle, est encore dans le coma. Cet autre manifestant, blessé ce week-end, décrit un véritable champ de bataille. Écoutez.
une grenade, je crois que c'est une grenade à dispersion, qui est tombée à mes pieds. Elle a explosé, c'est allé dans ma fesse droite. Je me suis retrouvé dans le champ en train de tousser. Là, je mets ma main sur ma fesse et puis je regarde, j'avais la main en sang, le jogging trempé de sang. Nous, à la base, on vient manifester pour l'eau. On parle des nappes phréatiques, on parle des agriculteurs. Comment c'est possible de mettre un dispositif policier comme ça? Comment ça se fait qu'ils protègent avec tant de violence? Comment ça se fait que ça se réduit à ça, l'image? Ça devrait pas être ça.
Un témoignage à retrouver en intégralité dans le journal de 7h. Alors la question ce matin, c'est celle-là. Comment assurer le maintien de l'ordre dans ce climat de très haute tension? Policiers, gendarmes, manifestants, je vous attends tous pour témoigner au 32-16. Il y a d'abord Franck qui est avec nous. Bonjour Franck.
Bonjour Apolline, bonjour
Franck, vous êtes vous-même consultant en prévention des risques à Bordeaux et vous étiez manifestant cette semaine. Qu'est-ce que vous avez vu?
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la manif en fait était très bien, bon enfant, de la musique, quelques poubelles qui crament, et, enfin je veux dire, il n'y avait pas de violence. On est tous
quelques poubelles. Bon, on va y revenir, mais c'est vrai que le quelques poubelles qui crament, pas de violence, ça me paraît toujours une phrase un peu étrange, parce que quelques poubelles qui crament, c'est une
non,
forme de violence quand même.
Non, c'était en milieu de rue, en fait,
c'était des petits bras zéro sympathiques.
Il y a toujours des casseurs en marge, mais je veux dire, c'était pas vraiment l'idée de la manif, c'était vraiment bon enfant, de la musique, enfin comme on a vu tout au long, enfin jusqu'à aujourd'hui.
D'accord.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur Place de la Victoire, c'était la fin de la manif, donc le rassemblement. Donc il y avait des gens qui prenaient des verres en terrasse, il y avait les manifestants qui arrivaient, les passants, enfin bref. Et en fait, il y a eu des lacrymos de partout, alors qu'il n'y a pas eu d'appel à la fin de la manif, en fait, par les CRS.
Ouais.
Et en fait, ça s'est passé.
Oui, il n'y avait pas une sommation. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas eu un moment de sommation où ils ont dit on vous demande de vous disperser ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas été prévenu.
Il y en a qui sont partis. Nous, on a été au niveau de la fac de médecine. Et en fait, il y a eu. C'est parti après un petit peu n'importe comment. Et voilà, moi je pense que c'est plutôt un problème de politique de maintien de l'ordre. Hein. Vraiment. Mmh.
Alors les images à Bordeaux, elles étaient particulièrement impressionnantes, hein, puisque jeudi soir il y a eu ce départ de feu qui a incendié tout le porche de la mairie.
Ouais, qui était plus tard, mais je veux dire, ça a été quand même chaud déjà à Victoire. Moi je suis parti,
il était quelle heure pour
17h30, 18h à peu près, et c'était déjà pas génial quoi. Il y avait des casseurs là qui jetaient des pavés au CRS. On était un peu bloqué parce qu'on s'est fait nasser en fait au niveau de la Victoire.
Ouais.
Ça craint. Hein. Franchement, c'était pas génial, quoi.
Non, mais quand vous dites ça craint, ça m'intéresse, Franck, aussi de comprendre. Vous dites, on était tranquille. En gros, tout le monde était bon enfant. On était en train de prendre des verres en terrasse. Et soudain, on s'est pris des lacrymos. Et ensuite, vous parlez des casseurs qui envoient des jets de pierre sur les CRS. Comment on en arrive à ce moment-là? Qu'est-ce qui est le moment de bascule?
Je pense que ça a été l'attaque entre parenthèses, enfin les lacrymos, etc. Qui d'un coup il n'y a pas de sommation. Donc en fait on se retrouve au milieu, il y a des gens en fait qui étaient là pour casser. Je veux dire, enfin il n'y a pas de sujet dans tous les.
Il y avait des gens. Ok. Non mais c'est ça qui.
Il y avait des gens par contre qui faisaient rien et qui pourraient prendre, on va dire, un peu la mouche parce qu'ils seront prendre des lacrymos.
Ils se sont pris des gaz lacrymogènes.
Raison, quoi.
Mais il y avait des gens, Franck, vous dites, qui étaient venus pour casser. Vous ne l'aviez pas vu dans les manifestations précédentes. Vous étiez aux manifestations précédentes, Franck?
Ouais, pas autant. Pas autant.
Ouais. Et clairement,
là,
pour vous...
Très clairement, les poubelles qu'il y avait... Moi, j'étais sur le premier tiers du cortège, on va dire.
Ouais.
Et c'est en début de cortège, a priori, que les poubelles ont été mis... Enfin, on a mis le feu aux poubelles.
D'accord.
Et très clairement, il y avait des gens en noir, des black box qui passaient. Et
que vous n'aviez pas vu, que vous n'aviez pas vu jusqu'alors?
Non. Il y avait beaucoup plus de monde aussi, donc je pense que
Enfin, cela dit, des grandes mobilisations depuis janvier, il y en a eu. Il y a eu plusieurs journées avec des records de mobilisation,
mais
n'avaient jamais dégénéré.
Ça m'a fait rire, c'est les chiffres donnés par la préfecture, parce que pour avoir fait les autres, il y avait un monde de malades, je veux dire.
Oui, vous dites que cette fois-ci, il y en avait beaucoup plus, ce qui n'avait pas forcément été constaté. Franck, est-ce que vous y retourneriez malgré tout? Est-ce que mardi, vous y serez?
J'y vais mardi, mais il y a des chances que je rentre un peu avant, parce que je ne veux pas ne pas y aller. Parce que j'ai envie de me dire que ma présence, elle compte pour le nombre. Mais parce qu'une personne plus une personne, ça fera quand
même. Mais vous n'allez pas traîner à la fin de la manif, quoi.
Non, pas ça. Non, pas du tout. Et en plus, quand j'ai entendu ce week-end Madame Borne qui parle, qui dit que oui, ils ont tout fait pour que le peuple français soit content, mais ils sont fous au gouvernement. Enfin, ils mettent le feu aussi, ces pompiers pyromanes, hein, comme on dit.
Le fait qu'aujourd'hui, ils appellent à l'apaisement, ça vous paraît presque cocasse, quoi, si je vous écoute.
Ouais, enfin, ils le font mal. Enfin, ils savent pas communiquer. Mais là, quand elle dit qu'ils ont tout fait pour faire bien les choses, enfin, c'est ubuesque. C'est ubuesque.
Franck, restez avec nous. Il y a aussi Damien qui lui nous appelle du Tarn. Bonjour Damien.
Bonjour Apolline.
Damien, vous êtes chauffagiste et pompier.
Et
vous vouliez aussi témoigner du côté, parce que c'est vrai que pompiers, on vous associe aussi à ceux qui, à la fin des manifs, viennent parfois pour tenter d'éteindre. On parlait à l'instant avec Franck des feux de poubelle, etc. Et puis, vous êtes souvent aux côtés des forces de l'ordre.
Tout à fait, vous avez raison. Je voulais saluer toute l'équipe. Je vous regarde tous les jours et je suis ravi de vous avoir.
Ben, merci beaucoup, merci Damien.
Oui, parce que je veux défendre les forces de l'ordre là-dessus, parce qu'ils n'ont pas un métier facile, ils nous accompagnent au quotidien, à chaque fois qu'on intervient. Il y a même des fois, je l'ai déjà dit aux grandes gueules, où ils sont obligés, on leur demande de partir, mais ils continuent de rester là pour nous escorter. Et j'ai beaucoup de difficultés à entendre le fait qu'ils agissent très mal parce qu'ils n'ont pas des conditions de travail qui sont exceptionnelles non plus.
Ils ont des conditions de travail particulièrement difficiles et en ce moment, c'est vrai qu'il y a une grande tension. Après, c'est toute la question, j'allais dire presque de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire qui, à un moment, fait que ça s'embrasse. Quand Franck raconte qu'il y a à la fois des gens qui veulent en découdre dans les manifs, mais qu'il y a aussi tout d'un coup, sortant un peu de nulle part, des gaz lacrymogènes sans qu'il y ait eu des sommations. C'est tous ces moments-là. Et pour Sainte-Soline, alors là, on est dans un cas extrême, mais quand on écoute les manifestants, ils disent au fond, nous, ça aurait pu être bon enfant si nous n'avions pas envoyé 3000 forces de l'ordre. Et du côté des forces de l'ordre, il y a des témoignages d'ailleurs qui sont assez saisissants aussi, hein, de vue de l'intérieur, notamment des camions des gendarmes, où on voit que clairement, ils sont pris pour cible par les manifestants. La question, c'est finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça s'embrase et qui commence, quoi, Damien ? Vous avez déjà, Damien, assisté à des moments comme ça où ça dégénère ?
Oh, j'ai vu des réfrigérateurs tomber du quatrième étage sur des voitures de gendarmes, par exemple.
Oui, ça clairement, ouais. Et ça, c'était dans le Tarn quand vous étiez en intervention ?
Oui, alors c'était dans le cadre d'une intervention avec en plus des médecins urgentistes qui étaient venus simplement comme nous et comme les forces de l'ordre en général pour sauver une vie.
Et le contexte, c'est comme ça que vous étiez accueilli, quoi.
Mais pas par tout le monde, parce que je mets pas tout le monde dans le même sac, bien évidemment. En plus, je viens du Nord-Pas-de-Calais, donc je suis habitué, je vais dire, à tout ça. Mais j'ai vécu des endroits comme à Roubaix, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, où c'était au final des gangs, des chefs dealers, qui reprenaient finalement la situation en compte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est eux qui disaient, on les laisse passer, on les laisse travailler, on les escorte. Voilà.
Quand c'est les chefs de gang qui finissent par escorter la police, qui elle-même escorte les pompiers, c'est vrai que tout ça devient très compliqué. On le voit bien avec vos deux témoignages, Franck et Damien. Merci à tous les deux, hein, vraiment d'avoir témoigné ce matin. La question du maintien de l'ordre, elle est au cœur de ce début de semaine, à la veille de cette mobilisation demain. Et on continue à en débattre avec vous tous. Les réponses du gouvernement, d'ailleurs, ce sera à 8h30 dans le face-à-face. Olivier Véran qui sera mon invité. Il est 6h51.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, il y aura le portrait du jour, Nicolas.
Et c'est Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a reçu des lettres de menaces.
Et Charles, vos histoires ?
Il y aura des schtroumpfs et des rillettes dans mes histoires.
Tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Mais tout de suite, on va aller faire un tour sur l'appli RMC, sur l'onglet Direct Studio. Là, vous pouvez nous envoyer toutes vos réactions, vos messages en direct pour réagir à toute l'actu. Et forcément, ce qui vous fait réagir ce matin, c'est ce déchaînement de violence auquel on a assisté ce week-end dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline. J'ai Rally qui nous écrit. Moi, ce qui me dérange, c'est plutôt la riposte des forces de l'ordre. Elle doit toujours rester proportionnée au regard de ce qui se passe dans une manifestation. Et dans la majorité des manifestants, quand ils défilent pacifiquement, il ne faudrait pas qu'à chaque fois ça déborde. On sait que c'est une petite minorité qui se greffe dans ces mouvements et qui fait en sorte que ça dégénère. Évidemment, c'est inquiétant. Il faut que ça se calme. D'autant qu'à mon avis, les manifs ne sont pas prêts de s'arrêter. Et puis j'ai Raphaël, lui, qui nous dit On a quand même lancé 4000 grenades sur les manifestants. Je ne sais pas combien d'agents des forces de l'ordre ont été blessés. Je ne parle même pas des arrêts de travail, des soins de santé. Tout ça va coûter des milliers d'euros. Et au fond, ce qui me gonfle ce matin, c'est d'apprendre que mes impôts servent à payer tout ça plutôt qu'augmenter les profs ou les infirmières. Voilà ce qu'en pense Raphaël. Et vous, que retenez-vous de ces violences qui ont émaillé le week-end à Sainte-Soline, en marge des manifestations contre la réforme des retraites? Vous prenez la parole au 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Dans 7 minutes, il sera 7h et voici le programme de la suite de la matinale. Restez bien avec nous, RMC s'engage pour vous, c'est juste après le journal de 7h. Il y a Amélie qui vient à l'aide à un réfugié politique qui veut devenir français pour remercier la France de l'avoir accueilli. Mais vous allez voir, c'est bien compliqué. Puis 7h15, le témoignage de Jennifer Payet, c'est la maman d'Asia qui a été victime d'un proxénète pendant 2 ans. Le procès s'ouvre tout à l'heure, elle vient témoigner, elle sera dans ce studio. Ce sera donc à 7h15 et puis 7h20, l'économie. C'est quoi le programme aujourd'hui? Manu.
Bien, la Commission européenne et l'Allemagne qui se mettent d'accord sur un sursis pour les moteurs thermiques.
Et Arnaud Demange sera avec nous à 7h20 et 8h20 bien sûr. Il est 6h54.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
Le portrait du jour, Nicolas, c'est celui de Yaël Braun-Pivet. C'est la présidente de l'Assemblée nationale. Elle a porté plainte après avoir reçu des lettres de menaces.
Oui, notamment une lettre qu'elle a lue hier à la radio sur RTL et qui commence ainsi. Salut la grosse truie juive. On n'a plus de zyklon, hélas, mais on a des barres de fer pour éliminer cette saloperie de U2. Une lettre anonyme qui date du 15 mars. Mais Yaël Braun-Pivet a décidé de la rendre publique ce week-end et de porter plainte parce qu'elle s'est aperçue qu'elle n'était pas la seule. Elle a une pensée pour 3 autres femmes députées, Aurore Berger, Marie Lebec et Astrid Panossian-Bouvet, qui ont toutes reçu des lettres du même genre, allant même jusqu'à menacer leurs enfants. Plus largement, les services de l'Assemblée nationale indiquent que depuis 8 jours, 22 députés ont subi soit des violences, soit des menaces.
Et Yaël Braun-Pivet, elle indique qu'elle n'imaginait jamais avoir à subir une telle violence.
Non, c'est ce qu'elle a dit hier. Jamais je n'avais imaginé qu'en m'engageant en politique, j'aurais à subir l'antisémitisme, le sexisme et la violence. Un engagement politique qui est assez récent. Yaël Braun-Pivet s'est présentée à une élection pour la première fois aux législatives de 2017. Auparavant, elle avait été avocate pénaliste au sein du cabinet d'Hervé Temim. Et puis, avec ses 5 enfants, elle était partie vivre en Asie pour suivre son mari, qui est cadre supérieur à L'Oréal. Elle en avait profité là-bas pour adhérer au PS à la section de Tokyo. À son retour, elle s'est donc présentée aux législatives en 2017 dans les Yvelines. Dans la foulée, au culot, elle est devenue présidente de la commission des lois. Puis, 5 ans plus tard, réélue. C'est encore au culot et contre l'avis d'Emmanuel Macron qu'elle s'est présentée pour la présidence de l'Assemblée et qu'elle a gagné. Elle est la première femme présidente de l'Assemblée, déjà victime de plusieurs attaques antisémites ces dernières années. Elle indique qu'elle est juive, non pratiquante. Son grand-père, tailleur juif polonais, était venu en France dans les années 30 pour fuir le nazisme. La petite fille de ce tailleur est aujourd'hui la 4e personnage de l'État décidée à ne pas se laisser insulter.
Yaël Braun-Pivet donc. Et vos histoires, Charles, à 6h56.
Les histoires de Charles.
Parce que sans transition, vous nous avez promis que vous alliez nous parler à la fois de Schtroumpf et de Riette. Dans quel ordre?
Eh bien, 2 records. Et on va d'abord commencer par un échec du côté des Schtroumpfs à Landerneau, c'est près de Brest. Se sont réunis ce week-end 2600 Schtroumpfs. Oui, c'est une belle performance. Mais l'objectif, c'était de battre le record du monde du plus grand rassemblement de Schtroumpfs. Record détenu par une petite ville allemande depuis 2019. Alors en 2020, Landerneau avait battu le record. Hein, 3500 personnes déguisées en Schtroumpfs. Mais record non homologué à l'époque par le Guinness Book à cause d'un papier qui manquait, problème administratif. Nouvelle tentative donc ce week-end, 2600 Schtroumpfs, mais c'est trop peu, il en manquait 100 à 100 près, ils battaient les Allemands. Faut dire que la pluie n'a pas aidé les Bretons ce week-end.
Avec nos copains quand même.
Bah oui, mais il pleuvait ce week-end.
Les bonnets, ça.
Ouais. Bah,
c'est vrai que le bleu pouvait couler un petit peu sur les joues.
Ça a découragé certains candidats, mais nul doute que Landerneau remettra ça l'année prochaine pour chipper le titre aux Allemands et ramener la coupe à la maison.
En revanche, au Mans, ils ont bien ramené la coupe à la maison.
Oui, avec la plus grande marmite de rillettes de tous les temps. C'était le point d'orgue, évidemment, du printemps de la rillette, avec une marmite de 4 mètres de diamètre et à l'intérieur plus d'une tonne, 1072 kilos de rillettes. 12 artisans ont mis la main à la pâte, 4000 pots de rillettes produits, dont un quart ont été distribués gratuitement à des associations. C'était donc de la rillette pour la bonne cause ce week-end.
On n'aura jamais autant parlé de rillette, hein, je crois.
Grâce à vous, je crois que le coup de la rillette a poli en bonne place sur RMC. Oui.
Il est 6h57, à tout de suite pour la météo de journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.